VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce lundi 16 février 2015. À la une ce soir.
Lutte contre Boko Haram, l'armée nigériane reprend une ville de l'état de Borno, tandis qu'à Yaoundé, un sommet régional planche sur une stratégie pour éradiquer la secte islamiste.
Pour la première fois en plus de 10 ans, l'Union européenne accorde une aide directe au Zimbabwe.
Bombardement de cibles de l'état islamique en Libye par l'aviation égyptienne.
Conflit ukrainien, le cessez-le-feu conclu mercredi semble déjà en train de se détériorer.
Ici aux États-Unis, les États de la Nouvelle-Angleterre sous la menace de nouvelles chutes de neige après des semaines d'intempéries.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir repris la ville de Monguno dans l'état de Borno. Bagasikoura, cette ville avait été saisie par les insurgés de Boko Haram le mois dernier.
L'armée nigériane a déclaré sur son compte Twitter que les opérations militaires pour éliminer les terroristes de Monguno et d'autres communautés avaient été menées avec succès. Elle précise que l'opération, qui comprenait des frappes aériennes, a permis la capture de plusieurs insurgés ainsi que des camions de nourriture et d'équipements destinés aux combattants de Boko Haram dans la ville de Baga. Mais l'armée nigériane ne précise pas si l'opération a impliqué des troupes du Niger, du Cameroun ou du Tchad, les trois pays mobilisés dans la lutte contre le groupe extrémiste islamiste. Boko Haram a lancé des attaques dans les trois pays au cours des deux dernières semaines. Monguno est une ville d'environ 100 000 habitants et elle avait été saisie par Boko Haram le 25 janvier.
Et toujours au chapitre de la lutte contre Boko Haram, les chefs d'État d'Afrique centrale se sont réunis aujourd'hui à Yaoundé au Cameroun. Sous l'égide de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la rencontre a rassemblé les présidents camerounais Paul Biya, le président tchadien Idriss Déby Itno, Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon, le président congolais Denis Sassou Nguesso, Teodoro Obiang-Nguema, le président de la Guinée équatoriale et Catherine Samba-Panza, présidente de la transition en Centrafrique. Ils en tendent à élaborer une stratégie commune visant à éradiquer le groupe islamiste nigérian. Le Nigeria, qui ne fait pas partie de la CEAC, n'était pas présent. Nous reviendrons sur cette rencontre à Yaoundé dans la partie magazine de notre émission.
Dans le nord Mali, à Tabankord, dans la région de Gao, 7 casques bleus de la MINUSMA ont été blessés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Pour l'instant, les circonstances de cet incident ne sont pas encore connues. Correspondance de Boubacar Touré.
Les soldats de la force onusienne déployés au Mali ont été victimes d'actes terroristes dans la localité de Tabankort, objet de combats acharnés entre les groupes armés de la coordination des mouvements de la Zawad et le groupe d'autodéfense Gatia et Alliés. 7 soldats de la MINUSMA du contingent tchadien ont été blessés. Selon une source de la MINUSMA basée à Gao que nous avons contactée ce matin, ces 5 casques bleus qui sont arrivés à Gao où ils reçoivent actuellement des soins au camp du contingent chinois basé à Bourgunché. Pour l'instant, on ignore les circonstances de cet incident. D'aucuns parlent d'un véhicule piégé qui a explosé près des soldats onusiens. D'autres affirment que c'est un obus que les terroristes ont lancé sur les casques bleus basés à Tabankort. Ce qui est sûr, les habitants de cette localité ont entendu la nuit dernière une forte explosion vers la position tenue par les soldats de la paix. Il faut le rappeler. Les attaques ciblant la MINUSMA se sont multipliées ces derniers mois, portant le nombre de victimes parmi les casques bleu à une trentaine de morts et une centaine de blessés depuis son déploiement dans le pays en 2013. Gao Boubacar Touré pour VOA Afrique.
République démocratique du Congo, la traque des rebelles hutu-rwandais des FDLR prendra le temps nécessaire, tel est le message des autorités de Kinshasa. L'offensive de l'armée congolaise contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda pourrait aussi bien prendre un mois, un an ou 10 ans, estime Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais cité par l'AFP.
Le Front Polisario appelle l'Organisation des Nations Unies à faire pression sur le Maroc afin qu'il accepte un référendum d'autodétermination dans la région du Sahara occidental que le royaume chérifien occupe depuis 1975.
Pour la première fois depuis les sanctions prises contre le Zimbabwe en 2002, l'Union européenne annonce une aide directe au gouvernement du président Mugabe. Il s'agit d'une enveloppe d'environ 270 millions de dollars destinée à financer des projets agricoles, de santé et de bonne gouvernance pour les 6 prochaines années. Cependant, les mesures adoptées contre le président zimbabwéen et sa femme, Grace Mugabe, restent en vigueur.
Épidémie d'Ebola au Libéria, les établissements scolaires ont fait leur rentrée aujourd'hui avec plus de 6 mois de retard. À cause de l'épidémie, l'AFP fait état d'une faible affluence des élèves.
Au Mozambique, c'est le choléra qui sévit. Les autorités citées par l'AFP comptent 28 morts et plus de 2400 personnes touchées dans le nord du pays. De fortes inondations sont notamment à l'origine de l'épidémie.
Les autorités soudanaises ont confisqué les exemplaires de 13 journaux. Selon l'AFP, citant un observatoire des médias, c'est la saisie la plus importante depuis des années dans ce pays où les confiscations sont fréquentes.
Les frappes aériennes ont touché des camps des militants et leurs dépôts d'armes dans la ville de Darna. Elles sont intervenues quelques heures après la publication.
Nous reviendrons un peu plus tard sur cette information. Le principal mouvement islamiste palestinien, le Hamas, a condamné l'exécution de 21 chrétiens égyptiens en Libye par le groupe État islamique. Un communiqué de l'organisation palestinienne qualifie cette exécution de crime atroce qui souille l'image de l'islam en allant à l'encontre de ses principes de tolérance et en détruisant les relations entre les Arabes musulmans et chrétiens. En Cisjordanie occupée, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré 3 jours de deuil et appelé lundi matin son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour lui présenter ses condoléances, souligne l'AFP. Revenons sur ces frappes de l'aviation égyptienne contre le groupe État islamique en Libye. Des avions de guerre égyptiens et libyens ont bombardé les cibles du groupe dans l'est de la Libye ce lundi. À en croire les militaires, c'est un représailles au massacre de ces 21 chrétiens coptes égyptiens. Eddy Issango.
Les frappes aériennes ont touché des camps des militants et leurs dépôts d'armes dans la ville de Darna. Elles sont intervenues quelques heures après la publication par le groupe État islamique d'une vidéo montrant la décapitation d'hommes qui avaient été retenus en otage en Libye. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a qualifié dans un discours télévisé ces meurtres d'acte odieux du terrorisme. L'Égypte se réserve les droits des représailles et avec les méthodes et les calendriers qu'il estime opportunes contre ces meurtriers et criminels dénués de la moindre humanité, a-t-il dit. Accompagné par les membres de son cabinet, M. El-Sissi a visité lundi la grande cathédrale copte d'Égypte pour présenter ses condoléances au pape copte Tawardos II et à la communauté chrétienne du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une possible visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Hébron avant les législatives du 17 mars en Israël provoque déjà la colère des Palestiniens qui ont mis en garde aujourd'hui contre un tel projet. L'agence France Presse cite le porte-parole de l'OLP, Xavier Abouaid, disant tenir M. Netanyahou et le gouvernement israélien pour responsables de tout ce qui pourra arriver après l'annonce de cette visite. 200 000 Palestiniens vivent à Hébron dans un climat de tensions exacerbées par la présence de 700 colons israéliens protégés par un fort contingent militaire.
Le cessez-le-feu entré en vigueur dans l'est de l'Ukraine semble en passe de s'effondrer du fait du duel d'artillerie entre les rebelles et les troupes ukrainiennes à Debaltseva, une importante gare ferroviaire encerclée par les insurgés. Les précisions de Michel Joseph.
Les séparatistes ont proposé aux soldats ukrainiens un couloir leur permettant de quitter Debaltseve à condition que ces derniers déposent les armes. Un porte-parole militaire ukrainien a dit à l'agence Reuters avoir rejeté cette proposition, ajoutant que l'accord de cessez-le-feu de la semaine dernière place Debaltseve en territoire ukrainien. La trêve négociée par les leaders ukrainiens, français, allemands et russes prévoit le retrait mardi des armes lourdes de la ligne de front, mais aucun des deux camps ne semble disposé à le faire. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé au respect du cessez-le-feu, mais a reconnu que la situation est fragile et cela est prévisible du fait de la situation de Debaltseve. Les rebelles ne cachent pas leur volonté de conquérir cette ville et sa voie ferrée qui relie les bastions séparatistes de Luhansk et Donetsk. Entre-temps, l'Union européenne a ajouté 19 personnes, y compris un ministre adjoint russe de la Défense et 9 entités à sa liste des sanctions en rapport avec le conflit ukrainien.
Plus de 30 000 civils ont dû fuir la région birmane de Kokang, proche de la frontière chinoise, alors que des affrontements avec l'armée birmane ont fait des dizaines de morts parmi les rebelles, d'après les médias officiels chinois et birmans cités par l'AFP. Les combats font rage depuis le 9 février dans cette région, réveillant un conflit en sommeil depuis près de 6 ans.
Et c'est President's Day, fête des présidents aux États-Unis, une occasion pour les travailleurs pas nous malheureusement, et les écoliers de jouir d'un jour de congé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
7 milliards de francs CFA, c'est le montant de la réparation des préjudices subis par Thierry Tanot, ex-directeur général du groupe Ecobank, limogé en mars dernier suite à une crise interne. Le tribunal de commerce d'Abidjan a rendu le jugement dimanche, indique le journal en ligne Financial Afrique. Estimant que le tribunal de commerce d'Abidjan n'est pas celui indiqué pour trancher en cas d'éventuel litige, Ecobank envisage de faire appel, souligne le journal en ligne. Une multitude de décideurs sont attendus à Lomé, au Togo, pour la première édition de l'Africa Best Practices Forum, qui débutera le 26 février. Le forum est consacré à l'amélioration du cadre et de l'environnement des affaires en Afrique avec l'appui de la Banque Ouest-Africaine de Développement, indique l'organisation de presse africaine dans un communiqué. La rencontre réunira des experts, des responsables de l'administration publique, des dirigeants du secteur privé, des acteurs sociaux pour discuter des réformes qui permettraient de stimuler la croissance et l'emploi. Sur la situation du secteur privé en Afrique de l'Ouest, un mot du directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Morta Lakane.
L'environnement est complètement miné par le coût de certains facteurs, notamment de l'énergie. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes dans des situations, quels que soient les efforts qui seront consentis, si le problème des facteurs techniques de production n'est pas réglé, nous aurons beaucoup de difficultés à émerger.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
Et nous accueillons maintenant en studio Bagassi Koura pour la page sport. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Et on commence par la CAN des moins de 17 ans.
Oui, ce soir la Côte d'Ivoire a fait match nul, 2-2 avec les Bafana d'Afrique du Sud. Et à 18h temps universel, le Mali affronte le Cameroun. Et si allons qu'au cours du week-end, le Nigeria a eu raison du Niger, 2-0, et la Guinée a battu la Zambie. 1-0. Et dans le classement, dans la poule A, le Nigeria est en tête avec 3 points, suivi de la Guinée 3 points, la Zambie à 0, moins 1, et le Niger ferme la marche avec 0 points, moins 2.
On a joué du foot à Bamako ce week-end dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue africaine des clubs de la CAF. Match aller.
Oui, au stade Modibo Keïta de Bamako, il faut signaler que le club olympique de la capitale malienne a pris une option sérieuse pour le tour suivant, en disposant du Tétouan du Maghreb, du Maroc. Donc 2-0 à l'issue du match. Voici les impressions de l'entraîneur du club olympique de Bamako, Sekou Seka.
On a une équipe jeune, très jeune, qui a envie de se faire montrer au public malien, qui a envie d'aller très loin dans cette compétition. Je pense qu'avec ça, c'est une bonne source de motivation pour qu'on puisse jouer au football. En première mi-temps, c'est vrai que même si ça a été difficile, en seconde mi-temps, ils ont pu se ressaisir et ils ont pu faire la différence et on a gagné 2-0.
Le retour.
C'est clair qu'on a eu quelques difficultés en première mi-temps. Je crois que l'équipe marocaine nous a vus. Ils savent quelles sont nos forces et nos faiblesses. Maintenant, nous, on va essayer d'étudier, nous aussi, quelle tactique on doit adopter pour faire un résultat là-bas. Je pense qu'on a déjà les notes, on va travailler là-dessus et travailler pendant les entraînements de la semaine afin d'aller au Maroc tranquille.
Voilà, c'était donc l'entraîneur du club olympique de Bamako, le club donc de la capitale malienne, qui a gagné le Tétouan du Maroc 2-0. Et Chérubin, c'était dans le cadre des matchs préliminaires de la Ligue africaine des clubs de la CAF.
Aujourd'hui, c'est lundi, donc c'est Sporama.
Oui, c'est Sporama et c'est dans un quart d'heure. On va parler longuement de ces éliminatoires, non seulement en Coupe CAF, mais aussi en Ligue des Champions. Il y a quelques résultats assez intéressants, avec notamment cette défaite du CW Sport en Côte d'Ivoire et aussi résultats mitigés pour les clubs congolais. Et aussi, on a Kolo Touré, le grand défenseur des éléphants, qui disait que son objectif ces dernières années, c'était d'avoir la CAN. Eh bien, il a rempli sa mission. Il dit qu'il tire sa révérence et il va prendre sa retraite internationale. Et ça, c'est des sujets qu'on va évoquer avec, bien sûr, nos consultants. D'abord à Libreville, le grand et l'incontournable Jules Valentin Goué.
Oui, Bagassi Koura, rendez-vous dans 15 minutes, Sporama.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Rubin Dorsil et Morgane Diriac, en votre compagnie, place au dossier du jour, le péril Boko Haram à l'ordre du jour d'un sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale aujourd'hui à Yaoundé.
Oui, les chefs d'État réunis dans la capitale camerounaise, Morgane, ont appelé à la mise en place d'un fonds spécial d'assistance aux pays affectés. Ils ont aussi discuté des détails de la force régionale qui sera déployée contre le groupe terroriste nigérian. De Yaoundé, un reportage de notre correspondant Edwin Moki-Kinzeka, présenté par Lionel Gaïma.
Les 10 États de l'organisation régionale se sont engagés à fournir en grande partie les 100 millions de dollars nécessaires pour combattre Boko Haram. Ils ont appelé l'ONU à accélérer l'autorisation par le Conseil de sécurité du déploiement de la force multinationale conjointe. Le président tchadien Idriss Déby Itno est le président en exercice de la CEAC.
Nos États membres qui ne sont pas encore touchés par le terrorisme apporter une grande attention à cette question et à manifester leur solidarité agissante envers les pays touchés par les actions de secte Boko Haram. Nous invitons également la communauté internationale à apporter tout son soutien matériel, diplomatique, financier, logistique et humanitaire pour combattre Boko Haram.
Le secrétaire général de la CEAC, Ahmad Alami, a lui aussi plaidé pour un soutien international à la lutte contre Boko Haram.
Ces groupes terroristes disposent des moyens militaires et humains d'une armée conventionnelle, sophistiquée, mais ils utilisent des méthodes asymétriques, rendant la lutte plus complexe et coûteuse. D'où la nécessité d'un élan de solidarité active pour une réponse appropriée, rapide, collective et multidimensionnelle pour éradiquer le groupe terroriste Boko Haram qui menace de déstabiliser toute la sous-région.
Le Burundi et la République centrafricaine ont promis de fournir des troupes à la force conjointe. Le chef de la diplomatie centrafricaine, Toussaint Kongo Doudou, a souligné que la RCA a décidé de soutenir le Tchad et le Cameroun malgré la crise qu'elle connaît elle-même. Le représentant du secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Batili, a expliqué que l'appui de l'ONU à la force conjointe contre Boko Haram dépendra du Conseil de sécurité.
Il est clair qu'une solution purement militaire ne sera pas suffisante. La lutte contre Boko Haram exige une approche multidimensionnelle qui s'attaque aux causes profondes de la menace et qui réponde aux défis de la stabilisation à long terme. Toutes nos actions contre le terrorisme doivent respecter les droits de l'homme, protéger les communautés, prévenir les abus par les personnels sur le terrain.
Les leaders de la CEAC ont réaffirmé leur volonté de promouvoir et renforcer une coopération harmonieuse et dynamique entre leurs pays.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
République démocratique du Congo, le calendrier électoral 2015-2016, publié par la CENI, est l'objet des polémiques au sein des différents partis politiques du Nord Kivu. Bien que demandé et attendu par l'opposition, son contenu et ses contraintes n'apportent pas satisfaction. Mais pour les partis de la majorité présidentielle, c'est une avancée significative. Le point depuis Goma avec la correspondance de Primo Pascal Rudaigua.
Selon Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement PLD en sigle, les contraintes liées à la mise en œuvre du calendrier électoral 2015-2016 sont éloquentes et prouvent à suffisance qu'il y a un glissement en perspective pour qu'il n'y ait pas des élections présidentielles en 2016.
Sur le plan financier, déjà je vois le gouvernement en train de nous dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour organiser des élections. Et comme dans la Constitution, il existe une disposition qui dit que les autorités en place peuvent y rester jusqu'à ce que les nouvelles autorités soient élues, nous risquons d'avoir ces glissements savamment, intelligemment préparés par la majorité présidentielle, au premier rang de laquelle d'ailleurs le PPRD, et je pense que la population doit se préparer préparer à barrer encore la route à cette manœuvre-là.
Réagissant à ces propos, le secrétaire exécutif fédéral adjoint du PPRD au Nord Kivu, Paluku Ezekias Muhaya, estime qu'il faudra laisser aux institutions en place de jouer pleinement leur rôle conformément aux prescrits de la loi.
Je ne voudrais pas qu'on prenne la place des institutions, parce que celui qui publie le calendrier s'appelle la CENI. Celui qui vient de publier la loi, il s'appelle l'instance présidence de la République. Et c'est le gouvernement qui a la charge de chercher les moyens. Donc je ne veux pas qu'on donne à la population l'impression que nous connaissons qu'il y a l'argent ou qu'il n'y en a pas. Et nous connaissons que si ça va arriver, que cela n'arrivera pas. Je ne veux pas qu'on prenne cette charge-là.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu invite plutôt les uns et les autres à se préparer sérieusement aux prochaines élections et de cesser les polémiques inutiles. Marie Chematsi Baeni est le porte-parole de ce gouvernement provincial.
Le gouverneur des provinces a salué la promulgation de la loi électorale par le chef de l'État et la publication du calendrier électoral global qui vient mettre fin au suspense et procès d'intention qui régnait au sein de l'opinion.
Pour l'analyste politique indépendant Onesforce Matumba, pense que le peuple devrait bien s'enquérir de pièges tendus par les politiciens congolais.
L'opposition, qui avait pourtant appelé de tous ses voeux la publication de ce calendrier global, crie maintenant au piège, trouvant, avec une certaine raison, que ce calendrier est tout simplement irréaliste. Le peuple congolais est le seul à être piégé par des politiciens qui ont de la peine à construire une véritable confiance pour rassurer enfin le peuple congolais.
Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Cap sur le Burkina Faso, le colonel Yacouba Ouédraogo se lance dans la course à la présidence. Ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, surnommé Yak, il a rendu public samedi le nom de son parti, UBN, Union pour un Burkina Nouveau. Naissance qui met encore en selle un militaire à côté des civils pour la présidentielle d'octobre prochain. De Ouagadougou, Zoumana Onogo.
L'Union pour un Burkina Nouveau, UBN, c'est la mutation en parti politique de l'association Burkina Nouveau. Son président, le colonel Yacouba Ouédraogo, dit YAC, explique ici le sens de ce glissement de perspective.
Il faut dire que depuis 2011, nous avons constaté, après la mutinerie des militaires, qu'il fallait vraiment que les Burkinabés aient un nouveau comportement. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le Burkina Nouveau, pour poser maintenant concrètement des actes, pour faire en sorte que notre Burkina Faso connaisse la paix, la réconciliation nationale et surtout la cohésion sociale.
Ce nouveau-né de la scène politique burkinabé est aussi le résultat de la fusion avec la CFDB, Convention des forces démocratiques du Burkina. Voici ce qu'en dit Amadou Djemdjoda Diko, ancien président de la CFDB.
Il y a la fusion, il y a l'alliance. Mais nous avons dit, quand vous êtes alliance, ça veut dire que vous êtes dans une chose. Un pied dedans, un pied derrière. Nous avons créé un parti depuis 1998. À partir de 2002, nous sommes partis à des alliances. Cette alliance ne dure pas parce que des gens viennent à vous pour une élection, ils disparaissent, ils vous laissent après tout seul. Et quand on fait le décompte chaque fois, c'est notre parti qui avançait, mais l'alliance elle-même ne progressait pas. Donc on a dit, comme on a l'expérience de l'alliance, nous allons maintenant tenter une seconde expérience, qui est celle de la fusion. Et c'est pourquoi donc nous sommes partis donc en fusion avec d'autres forces pour pouvoir donc engranger beaucoup plus de victoires.
La prochaine présidentielle au Faso portera une griffe particulière, celle des militaires candidats. En plus du colonel Yacouba Ouédraogo, on annonce les candidatures du général Djibril Bassolé, du colonel Jean-Baptiste Natama et même du général Gilbert Diendéré. Est-ce un cadeau quand on sait qu'en 55 ans d'indépendance, le Burkina Faso n'a connu qu'un seul président civil? Écoutons la réponse de Jacob Barry, il est le secrétaire général de l'UBN.
Nous sommes habitués à voir des militaires qui arrivent au pouvoir par des putschs en Afrique et même dans notre pays. Alors cela a terni un tant soit peu l'image des militaires par rapport au pouvoir que l'on souhaiterait désormais civil. Mais nous pensons que les militaires aussi sont des citoyens de chaque pays. Et dans le cas du colonel Yacouba Ouédraogo, c'est un monsieur qui a ambition de donner une leçon à son pays, à l'Afrique et au reste du monde, en faisant comprendre qu'on peut être militaire, en devenir civil, aller à la conquête du pouvoir d'État, sans passer par les armes.
Zubana Onogu, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le nord-est des États-Unis enregistre depuis 3 semaines des chutes de neige records accompagnées ces derniers jours d'un froid tout aussi extrême allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Rien qu'au cours du week-end, New York et Boston ont enregistré entre 10 et 30 cm de neige. La météo ne prévoit pas de répit avant le 1er mars. Pour faire le point, chez Rubin Dorcy, l'adjoint à Boston, le docteur Serge Lamour, pasteur du temple Salem à Boston.
Bien sûr, ça m'a surpris parce que on n'avait jamais eu un montant aussi élevé qui a causé beaucoup d'interruptions de les activités ici à Boston. J'ai jamais vu tant de neige dans ma vie.
Quel est l'impact d'une telle situation sur les activités socio-religieuses dans la zone qui vous concerne en particulier?
Bon, ça nous a affecté tous parce que à l'église, le nombre de présences a diminué de beaucoup. Parce que les gens ne viennent pas, d'autant plus nous avons beaucoup de personnages, des gens de la troisième âge qui ne viennent pas, et même les jeunes personnes, les adultes, et beaucoup de parents qui hésitent aussi à sortir avec leurs enfants.
Cette situation a commencé depuis quand alors? Depuis plusieurs semaines?
Cette situation a commencé depuis tantôt, je dirais, 4 à 5 semaines.
Et il paraît qu'on attend encore
des chutes. Parce que demain, nous allons avoir une autre chute, mercredi également. Et on vient d'annoncer une très grande accord pour dimanche et lundi, la semaine prochaine.
Comment évaluez-vous l'intervention des autorités municipales?
À dire vrai, les rues sont débrayées. Bon, quoique je m'attendais bien entendu une plus grande réparation dans les rues parce qu'on ne permet pas aux gens d'envoyer la neige dans la roue, dans les rues, et ce qui, d'après moi, pourrait être mieux parce que les pneus des voitures pourraient quand même les écraser un petit peu. Maintenant, on autorise pas ça.
Si je comprends bien, pour les résidences privées, pour des institutions comme les églises, les temples religieux, même si on fait le nettoyage, il n'y a vraiment pas d'endroit où mettre toute cette neige.
Non, il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit parce que ça a déjà formé une petite montagne.
Docteur Serge Lamour est pasteur du temple adventiste Salem de Boston.
Salut les amis, votre gars Roger Moumtou de RM Show sur VOA Afrique. Aujourd'hui, lundi, de la bonne musique, seulement ici sur VOA Afrique. Aujourd'hui, de la bonne musique, top 10 American Music, le hit parade américain. Et aussi notre sujet, la conclusion, notre sujet de la semaine dernière. Que doit-on retenir de cette CAN 2015? Quel est le bilan selon vous? Citez quelques événements de la CAN qui vous ont marqué. Et on a aussi parlé de plusieurs polémiques qui ont éclaté durant le tournoi de la CAN 2015. Citez-en quelques-unes. Restez branchés les amis pour la conclusion de cette émission. Bien sûr, rappelez-vous que notre groupe Facebook, c'est Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Seulement ici, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir repris la ville de Monguno dans l'état de Borno. Cette ville avait été saisie par les djihadistes de Boko Haram le mois dernier.
Le péril Boko Haram à l'ordre du jour d'un sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale aujourd'hui à Yaoundé. Les chefs d'État réunis dans la capitale camerounaise ont appelé à la mise en place d'un fonds spécial d'assistance aux pays affectés. Ils ont aussi discuté des détails de la force régionale qui sera déployée contre le groupe terroriste nigérian. La mise en onde de cette émission a été assurée par Lionel Gaïmard. À la présentation, Morgane Guiriac et Chérubin Dorcil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Alors Morgane, on invite les auditeurs à nous retrouver sur Facebook pour continuer la conversation et aussi sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako.
Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.